Bonjour à tous. À trois jours de la fête de la musique, l'événement qu'il a créé et qui a contribué à sa bonne réputation comme ministre de la Culture, Jack Lang donne le la de la démocratisation culturelle à la réforme de l'audiovisuel. Le point de vue de l'ancien ministre et actuel président de l'Institut du Monde Arabe, ce sera à partir de 12h55. Mais d'abord, revoir Giacometti à l'affiche d'un film portrait depuis le 6 juin. Le célèbre sculpteur de l'homme qui marche est exposé actuellement de Bâle à New York, tandis qu'un institut à son nom va s'ouvrir ce mois-ci à Paris, pensé dans le prolongement de la fondation Giacometti comme une porte d'entrée dans la fabrique de l'œuvre à travers l'atelier de l'artiste. Sa directrice, la conservatrice et historienne de l'art Catherine Grenier, est notre première invitée à retrouver tout de suite sur France Culture, ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Biographe, directrice de la fondation qui porte son nom et du nouvel institut éponyme qui va ouvrir à la fin du mois dans le quartier de Montparnasse où l'artiste a vécu et travaillé. Catherine Grenier, bonjour.
Bonjour.
La nouvelle Madame Giacometti, c'est vous ?
Peut-être, je ne sais pas. Non, certainement pas. Mais en tout cas, oui, au service de Giacometti, oui, certainement.
Vous êtes ni exclusive ni possessive avec l'homme en bronze et son héritage. 50 ans après sa mort, pourquoi est-ce que Giacometti gagne à être reconnu à vos yeux, Catherine Grenier ?
Parce que c'est un artiste qui a pour spécificité d'être à la fois un des plus grands artistes d'avant-garde, donc un artiste de la période moderne, mais aussi un artiste très contemporain. Le fait qu'après-guerre, il ait su se renouveler entièrement et inventer ce vocabulaire qu'on connaît si bien, le fait que ce vocabulaire il nous parle encore autant et qu'il parle aussi bien aux gens très érudits qui connaissent bien l'histoire de l'art qu'aux gens qui aiment la sculpture et la peinture qui parlent aux émotions, certainement ce sont tous ces éléments qui le rendent non seulement intéressant aujourd'hui, mais fascinant. Et puis, son caractère en tant qu'artiste, en tant qu'homme, était incroyablement fascinant. Et je crois qu'aujourd'hui encore, on peut s'en rendre compte.
J'ai commencé par faire la peinture, très jeune, et assez vite la sculpture. Et depuis, j'avais toujours le besoin de faire les deux. Pour moi, c'est le même problème que ce soit sculpture, peinture ou dessin. Il s'agit de vouloir réaliser, au fond, la même vision de deux manières différentes. Je dois dire que la peinture est, pour moi, plus immédiate et plus proche. Par contre, la sculpture est une vision plus abstraite. La sculpture, depuis, disons, la sculpture de notre civilisation gréco-romaine, elle est pour moi à peu près complètement reconstruite. Et pas une vision immédiate. Jamais on ne tourne autour d'une tête dans la réalité, n'est-ce pas ? Comme on fait autour d'une sculpture. Dans un fait, depuis des années, ou depuis toutes les dernières années, je ne fais toujours que le même sujet, à peu près, n'est-ce pas ? Monotone, en essayant toujours la même chose. Et me limitant de plus en plus à un détail, comme un nœud, qu'il faudrait défaire, ou on le défait et on avance, ou sinon. On est absolument perdu.
Giacometti, sur sa pratique de la peinture, de la sculpture et sa manière d'exercer son art, avec vous, Catherine Grenier, à Séoul et au Québec récemment, à Bâle et au Guggenheim de New York en ce moment, et bientôt une exposition à venir au musée Mayol à Paris. C'est un peu la Giacometti Mania. Aujourd'hui, vous allez ouvrir très prochainement ce nouvel institut qui lui sera consacré, qui révélera plutôt sa part intime, à la fois ses correspondances amicales avec d'autres artistes contemporains, mais aussi des écrivains, des intellectuels. On peut citer un peu tous ensemble Aragon, Beckett, Sartre, et tant d'autres, Bataille, ou encore Balthus. Et puis aussi, vous montrerez à travers cette institution l'influence qu'il a eue sur les générations futures. Est-ce qu'il y aura un Giacometti parmi les 500 œuvres prêts qui vont composer le catalogue des désirs amenés à circuler partout en France ? Vous avez été sollicité ?
Nous n'avons pas été sollicités, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un Giacometti, car heureusement, il y a aussi des œuvres de Giacometti dans les collections des musées français. Par contre, ce que vous disiez est vrai, c'est-à-dire que nous avons eu la chance à la Fondation Giacometti d'hériter de la veuve de l'artiste d'une collection absolument extraordinaire, mais aussi de l'ensemble des archives de cet artiste. Et c'est ce que nous voulons mettre à profit totalement, c'est-à-dire montrer au public à la fois toute la collection. C'est pourquoi nous organisons ces expositions en collaboration avec des musées français ou étrangers, et nous allons continuer. C'est un vaste programme que nous avons engagé et qui nous mène un peu partout dans le monde, avec des institutions amies qui nous reçoivent, avec lesquelles on travaille, et qui accueillent soit des expositions de Giacometti, soit des confrontations de Giacometti avec son contexte, avec ses amis artistes. Mais à côté de cela, nous avons toutes ses archives, nous avons tout le fond de son atelier, c'est-à-dire tout ce qui restait dans son atelier au moment où il est mort, et ça nous souhaitons le montrer aussi. Nous sommes par ailleurs une fondation française, donc il était très très important pour nous d'ouvrir un lieu à Paris, dans le quartier dans lequel Giacometti a choisi de s'établir et où il est resté pendant toute sa vie.
À quel courant vous le rattachez, vous, aujourd'hui, surréaliste, abstrait, figuratif, Catherine Grenier ?
Ce qui est très spécifique de Giacometti et ce qui en fait un personnage, je pense, très admiré des artistes aujourd'hui, alors que ça l'a sans doute desservi de son temps sur le plan de ce qu'on appellerait aujourd'hui la carrière, c'est que il est irréductible à un mouvement, véritablement. Il a traversé le mouvement surréaliste, il s'y est arrêté pendant 5 ans, il est devenu très rapidement, alors qu'il prenait le train en marche d'une certaine façon, il est rentré tardivement dans le mouvement surréaliste, il est devenu une des figures proéminentes de ce mouvement, et notamment parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sculpteurs aussi dans le mouvement, et donc il a amené un second souffle avec d'autres artistes de son âge, comme Dali par exemple, dans ce mouvement. Mais très très vite, au bout de moins de 5 ans, il a décidé de changer son style, d'aller vers d'autres expérimentations, de revenir à des réflexions sur la sculpture, des réflexions sur le regard. Il parlait toujours beaucoup de la question du regard, c'est-à-dire de notre lien au réel, de notre lien à la vie, et à partir de ce moment-là, il a plus voulu jamais être associé à aucun mouvement artistique. Donc c'est cette liberté en fait de l'artiste qui est ce qu'on pourrait décrire comme étant le plus spécifique de Giacometti.
Une forme d'universalité aussi à travers son œuvre qui explique qu'aujourd'hui il intéresse dans le monde entier.
Par ailleurs, oui, absolument. C'est-à-dire Giacometti, il est quelqu'un qui répond à ses contemporains. On voit qu'il y a beaucoup de discussions artistiques avec ses contemporains. Il répond aux sollicitations de son temps, il répond à la sollicitation de l'abstraction de sa façon à lui, il répond aux questionnements sur l'art figuratif de sa façon à lui, mais il est aussi en dialogue étroit avec les artistes du passé et même de temps très très ancien, très très reculé, qu'il aimait énormément. Donc ça donne à son travail ce caractère universel que vous décrivez et qui fait que son œuvre, d'une certaine façon, décrit totalement son moment et en même temps est totalement atemporel.
Et c'est déjà comme ça que parlait de lui ou qu'écrivait sur lui Jean Genet. Je vous propose d'écouter un texte de Jean Genet lu par le comédien Bruno Sermon.
C'est l'œuvre de Giacometti qui me rend notre univers encore plus insupportable, tant il semble que cet artiste ait su écarter ce qui gênait son regard pour découvrir ce qui restera de l'homme quand les faux-semblants seront enlevés. Mais à Giacometti aussi, peut-être, fallait-il cette inhumaine condition qui nous est imposée pour que sa nostalgie en devienne si grande qu'elle lui donnerait la force de réussir dans sa recherche. Quoi qu'il en soit, toute son œuvre me paraît être cette recherche que j'ai dite, portant non seulement sur l'homme, mais aussi sur n'importe lequel, sur le plus banal des objets. Et quand il a réussi à défaire l'objet ou l'être choisi de ses faux-semblants utilitaires, l'image qu'il nous en donne est magnifique, récompense méritée, mais prévisible.
extrait de l'atelier de Giacometti, une plongée fidèle d'ailleurs dans cet atelier parnassien du peintre, est en train d'être reconstitué. L'Institut proposera cette reconstitution permanente dès son ouverture et évidemment dans le 14e arrondissement de Paris. Cet atelier de Giacometti, comment Jean Genet en parlait, vous avez retrouvé aussi le manuscrit original où il racontait ce qu'il y voyait.
Oui, tout à fait. Jean Genet a été très très marqué par ses séances de pause dans l'atelier de Giacometti. Entre eux, ça a été une amitié très profonde et très importante, je pense, pour l'un comme pour l'autre, pour le développement de l'un et de l'autre. Et Genet a accepté de poser, ce qui était difficile pour lui. D'ailleurs, il a arrêté au bout d'un moment parce qu'il disait qu'il supportait pas l'exigence de Giacometti, qu'il le faisait poser pendant des heures et des heures et des heures sans bouger. Mais il a aussi beaucoup regardé l'atelier pendant ses séances et discuté, puisque Giacometti discutait pendant les séances de pause. Et il a mis par écrit, en fait, à la fois ses sensations et ses descriptions dans cet atelier qui était un lieu vraiment mythique. Les gens qui étaient introduits dans l'atelier de Giacometti en ont tous parlé comme d'un lieu où on comprenait vraiment ce qu'était, d'une certaine façon, l'essence de la création, en tout cas le processus de la création.
Chanceux et heureux étaient ceux qui avaient pu être introduits dans cet atelier. Ça a été le cas notamment de la photographe Sabine Weiss, dont vous reproduisez dans votre biographie, celle que vous consacrez à Alberto Giacometti, parue chez Flammarion, l'une des photographies, l'atelier d'Alberto Giacometti, juste après sa mort en juin 1966. Qu'est-ce qu'on y voit ? Plutôt des têtes, des torses, des statuettes, hein ?
On y voit, voilà, des motifs, bustes, ce motif qui l'obsédait, qui était la tête humaine et la figure humaine. Giacometti, pratiquement toute sa vie, dans sa sculpture, en tout cas, s'est borné à un seul motif, qui était la figure humaine, avec une particulière obsession pour les têtes, et dans les têtes, une obsession plus forte encore pour les yeux. Et en effet, ça parle énormément, puisque son atelier était comme peuplé de fantômes, de sculptures, qui étaient des sculptures achevées, mais d'autres aussi inachevées pour toujours, ou bien qu'il allait reprendre. Et donc, dans la photographie de Sabine Weiss, on voit cette accumulation, puisqu'on peut vraiment dire, on peut parler d'une sorte de foule blanche, puisqu'il travaillait le plâtre, il aimait beaucoup le plâtre, il exposait ses plâtres qui peuplaient son atelier.
Et elle le raconte, écoutez Sabine Weiss.
Lui, donc, il avait deux ateliers là. Le premier, c'était où il travaillait, qui était une pièce qui devait, je sais pas, avoir 6 mètres sur 6, ou même pas, peut-être 7 mètres sur 5 à peu près, enfin c'était pas très grand. Et alors c'était très joli comme atmosphère, parce que c'était très, très gris, avec de temps en temps des plâtres blancs. Mais enfin il y avait une espèce d'harmonie de couleurs et d'atmosphère créée par lui, parce qu'il était comme ça, il était comme son atelier, un peu gris, un peu gris, oui. Et donc, j'étais venue là pour le photographier. C'était tout facile. Lui, de toute façon, je expliquais ce que je voulais faire. Et lui continuait à travailler, à modeler. Et alors, ce qui était amusant, c'est qu'il travaillait toujours en cravate, en tout cas. Souvent en veston, mais toujours avec la cravate. Mais moi, je veux vous dire que c'était un être qui m'intimidait énormément. Il y a peu de gens qui m'intimident, mais lui, il m'intimidait. Parce qu'il était si simple, je ne sais pas pourquoi il m'intimidait.
Il intimidait par sa simplicité et son humilité, d'une certaine manière, ce que nous dit Sabine Weiss.
Oui, sans doute, et par son pouvoir de concentration, et puis par cette façon qu'il avait de faire face à l'adversité, parce que pour lui, la création, c'était aussi de l'adversité. Il n'était jamais satisfait de ce qu'il avait fait, et chaque jour, il recommençait, et chaque jour, il se confrontait à la possibilité de l'échec. Et l'échec, pour lui, n'était pas quelque chose qui l'empêchait de créer, c'était au contraire ce qui le ramenait à l'atelier. Donc c'est très, très particulier, en fait, hein, comme caractère pour un artiste. C'est pas du tout un artiste, d'ailleurs dans ses figurations on le voit bien, qui prenait l'héroïsme et qui décrivait des héros. C'est un artiste très très attentif à la fragilité humaine, c'est un artiste très attentif et très dans la relation avec l'autre, et cette relation était si intense que, en effet, elle pouvait intimider, elle pouvait être gênante. Ses frères même décrivaient le regard qu'ils posaient sur eux quand ils les peignaient ou quand ils les sculptaient, en disant que ce regard les traversait véritablement et les clouait sur place.
Et qui étaient ces modèles? C'était plutôt des anonymes ou des personnalités qui l'ont inspiré et qui l'a fait poser, qu'il aimait avoir devant lui?
Ces modèles étaient des modèles familiers. Et en fait, il peignait et sculptait pratiquement toujours les mêmes modèles. D'abord son frère Diego, qui a été à la fois son assistant, son ami, l'organisateur de sa vie quotidienne, mais aussi son modèle pendant des longues séances de pose. Ensuite, après la guerre, sa femme, Annette, qui a posé pour lui tous les jours pendant de très très longues période. Certains de ses amis artistes ou écrivains, on a parlé de Jean Genet pour des portraits plus épisodiques, et puis hors de la famille, deux modèles qui ont compté pour lui, un modèle japonais qui s'appelait Yanayara, qui était un philosophe et qui a donné lieu à une série de peintures tout à fait merveilleuses, et puis deux derniers modèles, Caroline, qui a été sa maîtresse, qui était une très jeune femme, beaucoup plus jeune que lui, rencontrée dans les dernières années de sa vie, qui l'a portraiturée souvent dans de très très belles peintures, et enfin le tout dernier, Lothar, qui était un photographe qu'il avait rencontré à la période surréaliste, qui à la fin de sa vie était tombé dans la misère et qui l'a pris à son atelier comme assistant, mais en fait d'assistance, il s'agissait de poser pour lui.
Qui était l'homme qui marche? Quel est le modèle qui a inspiré cette statuette, qui est probablement déjà l'une des plus connues de Giacometti et qui est aussi la plus chère au monde aujourd'hui, vendue il y a 3 ans aux enchères avec un tableau de Picasso à des sommes, je m'ai pas retenu quel était le chiffre, mais ça en fait en tout cas la sculpture la plus chère au monde. Vous consacrez des lignes à cette sculpture en bronze. Quelle énigme se cache derrière?
L'homme qui marche, c'est vous et c'est moi. D'ailleurs, le premier jet de l'homme qui marche était une femme qui marche. Et puis, c'est devenu un homme qui marche, mais en même temps, il est tout à fait à la fois homme et femme. Il n'est pas finalement spécifié, de même qu'il n'a pas de vêtements, qu'on ne sait pas de quelle période il date. Donc, c'est vraiment la figure de l'humanité. L'homme qui marche complètement, et en même temps dans un sens qui est le sens de l'humanité telle qu'on peut la rencontrer dans la rue. C'était très très important pour Giacometti. Il parlait beaucoup des scènes vues quand il était à la terrasse des cafés, dans la rue, les passants. C'était vraiment quelque chose qui le fascinait. En fait, les passants, la façon dont ils se rapprochent, la question de la distance, de la perspective, d'à partir de quel moment on distingue les traits de quelqu'un qu'on connaît mais qu'on a reconnu qu'à partir de sa silhouette sans que vraiment on l'ait vu. Donc toutes ces questions de la perception étaient extrêmement importantes pour lui. Et l'homme qui marche, il est un condensé finalement de toute cette question et il est une figure universelle.
L'homme qui marche, c'est aussi une chanson d'Étienne Dao. Catherine Grenier, directrice de la Fondation Giacometti, auteur d'une biographie Alberto Giacometti chez Flammarion, et notre invitée encore quelques minutes jusqu'à midi et demi.
Piazza Navona. J'étais là très tôt ce matin, je te cherchais. À vive allure, le passé nous rattrape. Je me demande si j'ai eu raison, mais me voici à Rome, devant chez toi.
L'escalier monte à sa chambre et dans ce froid de queue.
Et Étienne Daho, L'homme qui marche, cet extrait de son album Les chansons de l'innocence retrouvées.
Je travaille tout le temps. C'est pas par volonté, c'est que j'arrive pas à décrocher.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Il travaillait tout le temps, Alberto Giacometti. C'est effectivement un homme au travail que nous montre le film Final Portrait de Stanley Tucci, à l'affiche en ce moment. Un film qui raconte aussi la relation du maître avec son modèle. Ici, l'écrivain américain James Lord, qui a accepté de poser le temps long d'un portrait, parce que ces séances pouvaient durer très longtemps, vous l'évoquiez, avec Giacometti. C'était à Paris, en 1964, extrait.
Oh, fuck! This is going really badly. There's no question of finishing it, so...
Then why are we here?
What?
I said, then why are we here?
It's useful for me. It's what I deserve, I suppose, after 35 years of dishonesty. That's what I am. I'm dishonest. I'm a liar.
Dishonesty? How do you mean?
All these years that I've been showing things, you know, they were all unfinished. Probably shouldn't have been started in the first place. But then again, if I hadn't shown them, you know, I would have felt like a coward. So, I don't know. I'm neurotic.
Et le film montre aussi un Giacometti, alors fumant beaucoup d'abord, mais surtout travaillé par sa création. Est-ce qu'il se complaisait à rester totalement insatisfait, comme il est dit et présenté dans le film qui lui est consacré? Est-ce que Giacometti doutait tout le temps de ses capacités créatrices?
Giacometti a un caractère très intéressant et c'est ce que j'ai essayé de cerner dans ma biographie et notamment grâce aux correspondances qu'il a entretenues avec sa famille et qui n'avaient jamais été décryptées et que nous allons publier. On voit bien son caractère et on arrive à le cerner au plus près et je fais beaucoup de citations parce que c'est très très intéressant de l'entendre parler. C'est un être très paradoxal, c'est-à-dire qu'il est absolument dans le doute chaque jour, il est jamais satisfait de lui-même et en même temps, il est absolument pas dans un doute fondamental. C'est-à-dire, il sait qu'il est un très grand artiste et il sait qu'il va dans la bonne voie. Donc, c'est ce paradoxe-là qui est très personnel à Giacometti et qui, pour nous, est certainement très éclairant. Ça en fait un être extrêmement attachant, en fait.
Et ça, dès les débuts, parce que même en claquant la porte des Beaux-Arts, il savait déjà qu'il voulait être artiste et qu'il le serait aussi. Hein.
Oui, il a claqué la porte plusieurs fois et il a changé de style à un moment vraiment important, c'est-à-dire quand il était en pleine période surréaliste, alors qu'il avait des collectionneurs, des galeries qui lui proposaient d'exposer ses œuvres, des expositions. Et du jour au lendemain, il est revenu vers son atelier, il avait plus de collectionneurs et plus de galeries, et ça a été une traversée du désert qui a été longue. Mais c'était son caractère, il était très irréductible, il faut le dire. C'est peut-être ce qui a attiré d'ailleurs beaucoup les écrivains et les philosophes, hein, qui ont été très très attirés par Giacometti. Il a été très ami de Simone de Beauvoir, très ami de Sartre, il a été ami de Camus, il a été ami de Beckett. On a parlé tout à l'heure de Jean Genet. C'était un personnage qui ressemblait au personnage de Beckett d'une certaine façon. En tout cas, il partageait ce même questionnement sur l'humanité et certainement cette même fascination pour l'absurde.
Mais si c'était pas le succès, si c'était pas l'argent, si c'était peut-être pas non plus la reconnaissance, après quoi courait-il Giacometti ?
Après l'art. L'art était vraiment ce qui était central dans sa vie. C'est pourquoi d'ailleurs, même quand il a commencé à la toute fin de sa vie à gagner un peu d'argent, il n'a absolument rien changé à son régime de vie. Il est resté dans cette sobriété. On a pu parler d'ascèse, mais c'était même pas ça. C'était pas une volonté ascétique, je crois pas. C'était une volonté de ne se laisser distraire par rien. Il le disait, les grands artistes ne voyagent pas. Alors bien sûr, c'était un peu caricatural, des artistes ont voyagé, mais pour lui, c'était vrai. C'est-à-dire que rien ne pouvait le distraire.
Il n'allait pas aux accrochages de ses expositions, par exemple?
Au début, non, pas du tout. Il a eu ses premières expositions et notamment sa première rétrospective quand même aux États-Unis. Il n'y est pas allé, il a été invité. Il écrit à sa mère, c'est très beau, il dit... Maman, c'est formidable, le directeur de ce musée américain m'invite et même il me paye tout, mais bien entendu, je n'irai pas, j'ai trop de choses à faire à l'atelier. Donc, il n'était pas curieux de ses propres expositions et ne faisait pas lui-même ses accrochages. À la fin de sa vie, oui, beaucoup plus. Il est allé à Venise pour accrocher son exposition, à Berne. Et l'année précédant sa mort, il est allé à Londres, où il a eu une grande rétrospective à la Tate Gallery. Et là, il a participé à l'accrochage. Donc, c'est quelque chose qui est venu plus tard, parce qu'il récapitulait d'une certaine façon, dans ses accrochages, toute son œuvre ancienne et que ça lui redonnait un élan pour son œuvre future.
On a évoqué ses relations avec ses contemporains. On peut peut-être terminer par évoquer l'influence qu'il a eue sur les générations futures. Il y a des artistes d'aujourd'hui que vous connaissez bien, d'ailleurs, comme Annette Messager ou Christian Boltanski. Vous le ferez dialoguer à l'Institut à la rentrée avec Annette Messager et avec Peter Lindbergh. Ce sera ça dans l'exposition conjointe. Cette transmission qu'il a faite avec lui ou malgré lui, est-ce qu'elle fait écho pour vous à la place de la mémoire dans son œuvre?
Bien sûr, très certainement. Et ce que nous souhaitons faire à l'Institut Giacometti, c'est vraiment faire parler des regards nouveaux sur Giacometti, des regards actuels, qu'il s'agisse des regards d'ailleurs d'historiens de l'art ou des regards d'artistes qui lui parlent dans leurs œuvres ou dans certaines de leurs œuvres. C'est le cas d'Annette Messager, par exemple, qui a plusieurs fois introduit des éléments en référence à Giacometti dans ses installations et qui fera là, qui aura une carte blanche pour faire une installation dans l'ensemble de l'Institut. Il a aussi attiré beaucoup les photographes, les plus grands photographes de son temps. Vous avez donc diffusé un passage de Sabine Weiss, mais Brassai, Man Ray, Dora Maar et plein d'autres sont venus à l'atelier. Et les photographes contemporains sont tout aussi fascinés par Giacometti et par ses sculptures. C'est pourquoi nous montrerons effectivement les œuvres que Peter Lindbergh a faites de sculptures de Giacometti. Peter Lindbergh, qui est un photographe de mode, mais qui pour la première fois a fait des objets inanimés, des photographies d'objets inanimés, auxquels il donne vie, parce que ces sculptures de Giacometti, elles ont une vie intérieure très forte, qui a bien su capter le photographe.
Merci beaucoup Catherine Grenier, directrice de la Fondation Giacometti et du nouvel institut qui va pas tarder à sortir de terre, ouvrir ses portes à la fin du mois, auteur aussi d'une biographie Alberto Giacometti, parue dans la collection de grandes biographies chez Flammarion. Merci à vous.
Merci.
Et je vous donne rendez-vous quant à moi dans une vingtaine de minutes pour la deuxième partie de la Grande Table.